Chapitre 60. Anneau équatorial. Tandis qu'il roulait avec Caliban sur la terrasse enténébrée, Daeman eut l'impression que le monstre cherchait à lui arracher le bras à coups de dents. Et il ne se trompait pas. Seules les fibres métalliques de sa thermopeau, programmées en outre pour sceller toute déchirure, empêchaient les crocs de Caliban de lui déchiqueter les chairs puis de lui broyer les os. Mais la thermopeau ne le protégerait plus très longtemps. L'homme et l'animal emboutirent les tables, roulèrent parmi les cadavres des postes humains, ricochèrent sur une poutre et rebondirent sur une cloison de verre. Refusant de lâcher prise, Caliban étreignit farouchement Daeman de ses doigts démesurés et de ses orteils palmés. Soudain, la créature écarta ses mâchoires, rejeta la tête en arrière et chercha de nouveau à saisir sa proie à la gorge. Daeman bloqua cette nouvelle attaque avec son bras droit, se faisant à nouveau mordre jusqu'à l'os, et gémit tandis que les deux adversaires repartaient vers la rambarde. En dépit de la protection de la thermopeau, le sang jaillit en discrètes sphères, qui explosèrent au contact de la combinaison de l'un et de la peau écailleuse de l'autre. L'espace d'une seconde, ils se retrouvèrent coincés contre la rambarde, et Daeman fixa les yeux jaunes de Caliban, immobilisés à quelques centimètres des siens. Il savait qu'une fois écarté l'obstacle de son bras, Caliban lui arracherait son masque osmotique pour lui démolir le visage en quelques instants. Mais ce qui lui occupait l'esprit en cet instant était une constatation aussi simple que stupéfiante. « Je n'ai pas peur. » Il n'y avait plus de firmerie pour récupérer son corps par fax et le régénérer dans un délai de 48 heures, plus d'asticots bleus attendant de le reconstituer. Quoi qu'il arrive, ce serait définitif. « Je n'ai pas peur. » Daeman considéra les oreilles bestiales, le museau bavant, les épaules écailleuses et se rappela à quel point Caliban lui avait paru charnel. Il se souvint de la grotte et de la vision qu'il y avait eue de son pénis et de son scrotum tous deux d'un rose obscène. Alors que Caliban lâchait prise pour repartir à l'attaque de plus belle, et Daeman sut qu'il ne pourrait pas le bloquer une troisième fois, l'homme abaissa sa main gauche, trouva une paire de boules molles et les serra plus fort qu'il n'avait jamais serré quoi que ce soit. Au lieu de frapper, le monstre rejeta vivement la tête en arrière, poussant un hurlement d'une telle intensité que ses échos résonnèrent dans l'atmosphère raréfiée, puis tenta désespérément de se dégager. Courbant le dos, Daeman abaissa sa main droite, son bras saignait abondamment mais ses doigts étaient encore fonctionnels, et serra de plus belle, s'accrochant à un Caliban qui se démenait comme un beau diable pour se libérer. Daeman s'imagina en train d'écraser des tomates de ses mains puissantes, ses mains humaines, s'imagina pressant une orange à main nue, en broyant la pulpe pour en savourer le jus et il tint bon. Le monde s'était réduit à cet impératif. Tenir. Et Caliban, poussant un nouveau rugissement, abaissa son bras puissant et le frappa avec une telle violence qu'il s'envola au loin. Durant les quelques secondes qui suivirent, Daeman n'était ni en état de se défendre, ni même en état de savoir où il se trouvait. Mais le monstre ne fit rien pour saisir cette occasion, trop occupé qu'il était à hurler, à mouliner des bras et à palper ses organes douloureux, cherchant à la fois à s'éloigner au maximum et à se recroqueviller sur lui-même. Alors que Daeman commençait à y voir plus clair, il aperçut le monstre qui regagnait la terrasse, s'agrippait à la rambarde et se jetait sur lui, franchissant à toute vitesse les 5 mètres qui les séparaient. Ses griffes se tendaient déjà vers lui au bout de ses bras démesurés. Fouillant à tâtons parmi les chaises et les tables renversées, Daeman récupéra son tuyau en fer et, le saisissant des deux mains, en frappa violemment la tempe de Caliban. Cela produisit un bruit des plus satisfaisants. La tête de Caliban partit de côté et ses bras et son torse heurtèrent Daeman, mais ce dernier, écartant vivement la bête et sentant son bras droit s'engourdir tout à fait, lâcha le tuyau, bondit sur la rambarde et se propulsa vers la membrane semi-perméable située 10 mètres plus haut. Trop lent. Plus rompu que lui à la faible gravité, désormais animé par une haine incommensurable, Caliban rebondit sur le mur en mobilisant ses mains, ses pieds, ses jambes et toute son énergie, s'accrocha sur la rambarde avec ses seuls orteils et d'un bond prodigieux, se propulsa jusqu'à la membrane en dépassant Daeman. Constatant qu'il avait perdu la partie, celui-ci agrippa une entretoise placée 5 mètres au-dessous de son but et s'immobilisa. Caliban se posta sur la corniche, les bras grands ouverts, lui bloquant l'accès au carré blanc. Jamais Daeman ne pourrait échapper à ses mains puissantes, à ses griffes acérées. Soudain, il enregistra comme une décharge électrique la douleur qui parvenait de son bras en lambeaux, qui lui parut ensuite engourdi, et il comprit qu'il ne tarderait pas à être terrassé par le choc. Caliban rejeta la tête en arrière, exhiba tous ses crocs et chanta
« Ce que je déteste, lui-même le consacre. Ce que je dévore, lui-même le célèbre. Pas de conjoint pour toi, de la viande pour moi. »
Dès que Daeman tenterait de fuir, Caliban lui sauterait dessus. En voyant ses cicatrices à vif qui lui marbraient le torse, Daeman se surprit à sourire. Sa vie ne l'a pas ratée. Elle est morte, mais elle s'est battue jusqu'au bout. Et je vais faire pareil. Au lieu de fuir, Daeman prit appui sur l'entretoise, s'accroupit, rassembla dans ses jambes ce qui lui restait d'énergie, baissa la tête et bondit droit sur le torse de Caliban. Il lui fallut 2 ou 3 secondes pour franchir l'espace qui les séparait, mais le monstre sembla trop surpris pour réagir. La nourriture n'est pas censée se conduire de façon aussi impertinente. Une proie, ça ne charge pas. Puis Caliban comprit que son dîner venait à lui, vêtu en outre de la thermopeau qu'il convoitait, et il sourit de tous ses crocs en salivant d'avance. La créature ouvrit bras et jambes pour envelopper Daeman dans une étreinte dont il savait qu'elle ne la relâcherait qu'une fois l'homme mort et à moitié dévoré. Ils passèrent ensemble à travers la membrane, et pendant que Daeman avait la sensation de déchirer un fin voile de gaz, le hurlement de Caliban s'interrompit tout net. Ensemble, ils déboulèrent dans l'espace, Daeman étreignant Caliban aussi farouchement que celui-ci cherchait à le mordre, l'humain pressant sa main gauche contre la gorge du monstre pour se préserver de ses crocs durant les 8 ou 9 secondes dont il pensait avoir besoin. La thermopeau réagit sans délai à l'exposition au vide, comprimant les chairs de Daeman à la façon d'une tenue pressurisée, scellant hermétiquement la moindre brèche, même à l'échelle moléculaire, susceptible d'entraîner une déperdition d'air, de sang ou de chaleur. Le masque osmotique gonfla sa visière transparente et passa en mode intégral de circulation, de recyclage et de purification de l'air. Grâce aux tubules de refroidissement, la transpiration naturelle produite par Daeman alla refroidir la moitié de son corps exposé au soleil, en même temps que le surplus de chaleur était transmis à l'autre moitié, baignée dans une ombre où régnait une température proche du zéro absolu. Cette procédure ne prit qu'une fraction de seconde et Daeman ne la remarqua même pas. Il était trop occupé à résister à Caliban, à protéger sa gorge et son épaule des mâchoires et du groin du monstre. Caliban était trop fort. D'un mouvement de la tête, il se libéra de l'étreinte de Daeman, puis ouvrit grand sa gueule pour pousser un cri de triomphe avant de lui déchiqueter la gorge. L'air se déversa de sa bouche et de son thorax comme de l'eau d'une gourde crevée. Sa salive gela devant lui. Caliban plaqua sur ses oreilles ses doigts longilignes, mais il était trop tard. Des globules de sang jaillirent dans le vide comme ses tympans explosaient. Ils se mirent aussitôt à bouillir et moins d'une seconde plus tard, le sang qui coulait dans ses veines en fit autant. Les yeux de Caliban se gonflèrent et le sang jaillit à gros bouillons de ses glandes lacrymales. Son museau se mit à frémir, sa gueule à palpiter comme celle d'un poisson hors de l'eau en quête d'un air qui ne venait pas. La cornée de ses yeux exorbités se para d'une couche de givre blanc. Daeman, qui s'était dégagé, s'éloigna en boulant par-dessus la terrasse extérieure, seule la rambarde métallique l'empêcha de dériver dans le vide, puis se traîna péniblement jusqu'à l'emplacement où le Sony était amarré à la surface de métal. Il ne voulait pas fuir, il ne voulait pas tourner le dos à Caliban. Il voulait tuer cette abomination de ses mains gantées. Mais l'une de ces dernières ne fonctionnait plus, son bras droit pendait contre son flanc, totalement inutile, lorsqu'il franchit d'un coup de pied les 3 derniers mètres le séparant du véhicule. Arman. Anna. Un humain ainsi exposé au vide spatial aurait déjà péri. Daeman ignorait beaucoup de choses, mais il savait cela instinctivement, sauf que Caliban n'était pas humain. Crachant le sang et l'air réfrigéré comme quelque horrible comète dégorgeant sa propre substance à l'approche du soleil, Caliban, à force de tourner sur lui-même en moulinant des bras, parvint à s'accrocher à la terrasse et à gagner la membrane semi-perméable, et de là l'atmosphère et la chaleur toute relative de la cité. Daeman n'avait pas le temps de l'observer. Après s'être allongé dans la couchette du pilote, il se tourna vers la plaque métallique où aurait dû se trouver le panneau de contrôle virtuel. Il n'y avait rien.
Comment dois-je l'activer? Que vais-je faire si je n'y arrive pas? Comment sa vie s'y prenait-elle?
Le vide total régnait dans son esprit. Son champ visuel se rétrécit, soudain envahi de taches noires. Pris d'une soudaine crise d'hyperventilation, il faillit défaillir alors qu'il luttait désespérément pour visualiser sa vie en train de piloter le Sony, d'activer les contrôles. Rien.
Détends-toi.
Calme-toi. C'était sa propre voix qu'il entendait, mais elle semblait plus mûre, plus sereine, un peu amusée.
Va doucement.
Il lui obéit, s'efforçant de ralentir le rythme de sa respiration, puis celui de ses pulsations cardiaques, et tentant une nouvelle fois de se concentrer.
Elle n'a pas utilisé une commande vocale?
Ça ne marcherait pas dans le vide spatial. Pas d'air, pas de son, c'était sa vie qui le leur avait dit. Ou alors Arman. Ces temps-ci, Daeman apprenait des choses de tout le monde.
Comment a-t-elle fait alors?
Il s'obligea à se détendre un peu plus, puis ferma les yeux et pensa à la première fois lorsque sa vie avait décollé de l'iceberg.
Elle avait passé une main ici, sous cette poignée, pour faire apparaître le panneau.
Daeman déplaça sa main gauche. Le panneau de contrôle virtuel fit son apparition. Privé de l'usage de sa main droite, fermant les yeux chaque fois qu'il devait se concentrer, Daeman exécuta plusieurs séquences consécutives. Le champ de force s'activa, le plaquant contre sa couchette. Une seconde plus tard, un rugissement le fit sursauter. Mais ce n'était que l'air remplissant l'espace de la cabine, comme il l'avait demandé. Il entendit alors une voix.
« Mode manuel ou automatique ?»
Daeman releva légèrement son masque osmotique, étouffant les larmes de joie que lui inspirait sa première bouffée d'air frais depuis un mois, et répondit
« Manuel !»
La console se mit en place, nimbée d'une aura virtuelle. Le levier paraissait des plus solides dans sa main gauche. Oubliant les amarres élastiques jusqu'à ce qu'il les voie s'envoler dans le vide, Daeman amena le Sony 3 mètres au-dessus de la terrasse métallique, empoigna le levier, activa les tuyères arrière, partit de biais, rectifia sa trajectoire avant d'avoir embouti du métal plutôt que du verre, et traversa la membrane semi-perméable à une vitesse de 50 à 60 km à l'heure. Caliban l'attendait à l'intérieur. Le monstre lui sauta dessus, le visant à la tête, et sa trajectoire était vraiment impeccable, sauf qu'il n'avait pas compté sur le champ de force. Caliban rebondit dessus et s'envola vers le centre du puits. Daeman effectua un ample virage, s'habituant aux commandes, et raffermit son étreinte sur le levier pour augmenter le régime des moteurs. Le Sony volait à près de 100 km à l'heure lorsque Caliban leva ses yeux sanguinolents, qui s'écarquillèrent encore plus, et que le nez du véhicule se planta dans son ventre, le projetant à l'autre bout de la tour, où il s'écrasa sur les poutres d'acier et les plaques de verre. Daeman aurait adoré s'attarder un peu pour jouer avec lui, la soif de vengeance lui avait fait oublier jusqu'à ses souffrances, mais ses amis risquaient de périr. Effectuant un nouveau virage, il plongea droit sur le sol de la cité, plus de 90 étages en contrebas. Il faillit ne pas redresser le Sony à temps. Il rasa quelques mottes de terre, laboura les pseudo-algues, fit voler des touffes d'herbes mortes, mais il réussit à le stabiliser et à réduire sa vitesse. Il ne lui fallut que 3 minutes pour retourner à la firmerie, alors que l'allée lui en avait pris 20. L'entrée n'était pas tout à fait assez large. Daeman fit reculer le Sony, en augmenta le régime et passa en force, rendant la membrane totalement perméable. Il longea les cuves de soins vides, laissant dans son sillage des débris de verre, de métal et de plastique. Le spectacle des cadavres livides de ceux qu'il n'avait pas pu sauver lui arracha une grimace. Puis il stoppa le Sony, désactiva le champ de force et se précipita vers les deux corps étendus à même le sol. Arman avait laissé à Anna sa thermopeau bleue, ne gardant sur lui que le masque osmotique. Son corps nu semblait blafard et contusionné à la lueur des phares du Sony. Anna avait la bouche grande ouverte, comme en un ultime effort pour avaler une goulée d'air. Daeman ne perdit pas de temps à vérifier si tous deux étaient en vie. De son bras gauche, le seul qui fut valide, il les hissa et les plaça dans les deux couchettes bordant la sienne. Il prit aussi le temps d'aller récupérer le sac de sa vie qu'il plaça derrière lui, ainsi que le pistolet qu'il cala sur l'accoudoir de sa couchette, avant de réactiver le champ de force.
« Oxygène pur !» dit-il au Sony.
L'air déjà frais et sain devint plus épais, plus riche, et Daeman fut pris d'un léger vertige.
Il tripatouilla le panneau de contrôle, déclenchant plusieurs signaux d'alarme avant de localiser le chauffage. Une douce chaleur rayonna de diverses grilles. Armand se mit à tousser, imité par Anna quelques secondes plus tard. Tous deux ouvrirent les yeux, les fixèrent sur lui. Daemon leur adressa un sourire aussi large que stupide.
« Ouh ! Ouh ! »
bredouilla Armand.
« Va doucement !» dit Daemon en orientant le Sony vers la sortie de l'infirmerie.
« Prends ton temps !»«
Temps ? Pas le temps !»
bafouilla son aîné.
« L'accélérateur ?
L'inéner ?
Oh, merde !»
Il avait complètement oublié la structure qui fonçait sur eux. Pas une fois, il n'avait jeté un coup d'œil dans sa direction pour voir où elle se trouvait. Daemon passa au régime maximum, acheva de défoncer l'ouverture et accéléra vers la sortie. Aucun signe de Caliban dans la tour. Daemon effectua un large virage, visa la terrasse par laquelle il était entré et se retrouva dans le vide spatial.
« Oh Seigneur Jésus !»
souffla Armand. Anna poussa un hurlement, le premier bruit qu'elle avait émis depuis sa sortie de la cuve. L'accélérateur linéaire de 3 km était si proche que l'anneau collecteur de trous de verre placé à sa proue emplissait 2/3 du ciel au-dessus d'eux, occultant le soleil et les étoiles. Ses réacteurs pulsaient tout le long de sa coque, effectuant d'ultimes corrections de trajectoire avant l'impact. Quoiqu'ignorant les noms de ces divers éléments, Daemon les distinguait tous avec une parfaite netteté. Les croisillons étincelants, les anneaux criblés d'innombrables impacts de micrométéorites, les rangées d'échangeurs thermiques, la longue ligne de retour couleur cuivre au-dessus de l'accélérateur principal, les lointaines piles d'injecteurs et la sphère tournoyante du trou de verre captif aux couleurs de mer et de terre. Celle-ci sembla enflée sous leurs yeux, achevant de leur dissimuler le firmament, et son ombre couvrit les 1500 mètres de la cité de cristal.
« Daemon !»
fit Armand. Celui-ci avait déjà réagi. Et le Sony prit son essor au-dessus de la tour, de la cité, de l'astéroïde, fonçant vers cette gigantesque boule bleue qu'était la Terre, alors même que l'accélérateur achevait sa course derrière eux. Le Sony effectua un looping, plaçant les tours de la cité droit devant, puis à l'arrière, et la masse de l'accélérateur frappa l'astéroïde, la sphère du trou de verre s'écrasant sur les tours une seconde ou deux avant la structure en matière exotique proprement dite. Le trou de verre s'effondra sur lui-même dans un silence absolu, et l'accélérateur sembla se comprimer à la façon d'un soufflet, puis la force de l'impact devint apparente à l'instant où les trois humains se retournaient sur leur couchette pour mieux voir ce qui se passait derrière eux. Il n'y avait aucun son. C'est ce qui frappa le plus Daemon, le silence absolu de cet instant. Aucune vibration, pas un de ces signaux familiers accompagnant un cataclysme. Mais cataclysme, il y avait. La cité de cristal explosa en des millions et des millions de fragments. Le verre chauffé à blanc se mêlant au gaz en expansion pour former un nuage s'étendant tous azimuts. De gigantesques boules de flammes surgirent un peu partout, parcourant 1, 3, 15 kilomètres, comme pour rattraper le Sony en fuite, puis semblèrent se rétracter. On aurait cru un film se déroulant à l'envers, lorsqu'elles achevèrent de consumer l'oxygène disponible. Sur le monticule de roche, du côté opposé à celui de l'impact, la cité s'envolait littéralement, feu d'artifice de verre, d'acier et de matière exotique partant dans tous les sens, la plupart des morceaux s'abîmant dans des orgies de destruction individuelle que ponctuaient de toutes parts des explosions silencieuses et des bouquets de boules de feu se consumant elles-mêmes. Une seconde après le premier choc, l'astéroïde frissonna sur toute sa longueur, projetant dans l'espace des ondes concentriques de gaz et de poussière. Puis il se brisa.
« Vite !»
fit Armand. Daemon ne savait pas ce qu'il faisait. Il avait mis le cap sur la Terre à la vitesse maximale, gardant une certaine avance sur les flammes, les débris et les projections de gaz gelés, mais voilà que les voyants vibraient à l'orange, voire au rouge, sur le panneau de contrôle virtuel. Pis encore, on percevait enfin un son à proximité du Sony. Mais c'était un inquiétant concert de sifflements et de grincements qui virait maintenant au grondement. Pis que tout, une aura orangée nimbait à présent le véhicule et elle menaçait de se transformer en sphère de flammes et de plasma électrique bleu.
« Que se passe-t-il ? »
hurla Anna.
« Où sommes-nous ? »
Daemon occulta ses cris. Il ne savait pas quoi faire du levier et du contrôle d'altitude. Le rugissement gagnait en volume, la sphère de flammes en épaisseur,
Est-ce qu'on est endommagé ?
Lança Harman. Daiman secoua la tête. Il ne le pensait pas. Ça avait sans doute un rapport avec l'entrée dans l'atmosphère, songea-t-il. Un jour, alors qu'il avait 6 ou 7 ans et se trouvait chez une amie de sa mère, il avait désobéi aux ordres de cette dernière et descendu en glissant une rampe d'escalier, atterrissant sur le sol à une vitesse élevée et se brûlant les mains et les genoux en poursuivant sa course sur le tapis. Cela lui avait servi de leçon et il n'avait plus jamais recommencé. Peut-être subissait-il en ce moment les effets d'une friction similaire. Il décida de garder pour lui cette théorie. Réflexion faite, elle semblait plutôt stupide.
« Fais quelque chose !»
hurla Harman au sein du fracas qui régnait tout autour d'eux. Leurs cheveux et leurs barbes se hérissaient sous l'effet de la tempête électrique. Anna, qui avait perdu la totalité de son système pileux, semblait se demander où elle était tombée. Avant que le vacarme étouffe toute chose, Daeman hurla en direction du panneau de contrôle
« Pilote automatique !»
Activé, pilotage automatique. La voix neutre du Sony était presque inaudible. Daeman sentit la chaleur s'insinuer à travers le champ de force et comprit que les choses tournaient mal.
« Activation du pilotage automatique !»
hurla-t-il à plein poumon. Le champ de force s'abattit sur les trois humains, les plaquant sur leur couchette, alors que le Sony se retournait et que les moteurs arrière rugissaient avec une telle violence que Daeman crut que ses os allaient se fracasser. Son bras le faisait horriblement souffrir tant la décélération était élevée. « Entrez dans l'atmosphère suivant le plan de vol programmé ?» demanda le Sony de sa voix la plus placide, une voix d'idiot savant.
« Oui !»
glapit Daeman. Il avait atrocement mal à la nuque. Il était sûr que son échine allait se briser. « S'agit-il d'une réponse affirmative ?» insista la machine.
« Affirmatif !»
bugla Daeman. De nouveaux moteurs se mirent en marche. Le Sony sembla rebondir comme un galet ricochant à la surface des eaux, fut de nouveau assailli par le feu à 2 reprises, puis se redressa. Daeman leva la tête. Il volait. Il volait si haut que l'horizon terrestre leur apparaissait encore comme courbe, si haut que seul le blanc de leurs neiges éternelles identifiait les montagnes qu'ils survolaient, par contraste avec le brun et le vert des terres alentour. Mais il volait. Il y avait de l'air autour d'eux. Poussant un cri de joie, Daeman étreignit Anna dans sa thermopeau bleue, puis poussa un nouveau cri en levant vers le ciel un poing triomphal. Il se figea dans cette posture.
« Oh, merde !»« Quoi ?»
dit Harman. Le vieil homme était entièrement nu et son masque osmotique lui pendait autour du cou. Il leva les yeux à son tour suivant le regard de Daeman.
« Oh, merde !»
répéta-t-il. La première d'un bon millier de boules de feu, les débris de la cité de cristal, de l'accélérateur linéaire ou de l'astéroïde fracassé, fila en rugissant à un peu plus d'un kilomètre de distance, traînant derrière elle un sillage de flammes et de plasma long de 15 kilomètres, manquant déséquilibrer le Sony par la violence de son passage. Le ciel enflammé vomissait des météores.